autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Thibaut Baduel à la réalisation pour une plongée inouïe jusque dans les abysses, à plus de 2000 mètres de fond, au large de l'océan Atlantique, dans les reliefs tourmentés de sources hydrothermales fumantes, milieu totalement hostile, hautement toxique, sans lumière ou écrasé par une pression colossale. Des formes de vie étranges, stupéfiantes et même luxuriantes se sont développées là où personne ne les attendait. Embarquement immédiat à bord du Pourquoi pas, le vaisseau scientifique de l'Ifremer, en compagnie des chercheurs et chercheuses qui étudient cette si mystérieuse faune des profondeurs. Pierre-Marie Saradin, découvreur et spécialiste de ces écosystèmes profonds à l'Ifremer, et José Sarrazin, chercheuse en écologie benthique, qui sera en ligne avec nous depuis les Açores. Tous deux n'ont pas hésité à embarquer dans leur mission d'exploration, un écrivain, dramaturge, David Val, qui nous fait partager son journal de bord en immersion, voire en submersion totale, dans un ouvrage à nul autre pareil, La vie profonde, une expédition dans les abysses, aux éditions Artaud. Une formidable plongée scientifique, humaine, littéraire, artistique, océanique, philosophique et même théâtrale à partager ensemble. Autour de la question que nous enseigne la vie dans les abysses, bienvenue dans les écosystèmes les plus étranges et les plus méconnus de notre planète, qui excitent tant la curiosité des biologistes comme Sarah Samadi, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle.
La raison pour laquelle on a été surpris par les sources hydrothermales, c'est qu'on s'est retrouvé au fond de la mer, au pied de volcans qui dégageaient des tas de toxiques, fluides toxiques et puis de la chaleur. On a trouvé une vie abondante avec des formes qui semblaient à première vue complètement différentes de ce qu'on connaissait ailleurs. Donc c'est ça qui a surpris. C'était cette quantité et des conditions qui sont différentes du reste du fond de la mer, parce que dans l'ensemble, au fond de la mer, il fait froid. Il n'y a pas de lumière, il y a un certain nombre de conditions. Et là, dans ces sources hydrothermales, on a des conditions très différentes et il y a une vie en abondance.
Bonjour Pierre-Marie Saradin.
Bonjour.
Merci d'être venu de Brest pour être en direct avec nous, car vous êtes le spécialiste de la question. Aujourd'hui directeur de l'unité de recherche études des écosystèmes profonds à l'Ifremer. Vous avez consacré, on peut le dire, votre vie de chercheur, de biochimiste, à l'exploration des profondeurs sous-marines, à l'observation, à l'étude de ces formes de vie abyssales si mystérieuses, dont la découverte en 1977 seulement a fait l'effet d'une bombe. Comment ces milieux si extrêmes, si hostiles, à 2000 mètres de profondeur, ces sources hydrothermales, ces fumeurs toxiques pouvaient abriter la vie, et quelle forme de vie en plus, exubérante, luxuriante, singulière. Depuis 1994, Pierre-Marie Saradin, vous avez dirigé de nombreuses campagnes océaniques, notamment à bord du Pourquoi pas, sur le site bien nommé Lucky Strike, sur la dorsale médio-atlantique au large des Açores. Alors pourquoi avoir eu envie d'y entraîner un écrivain, un auteur, un dramaturge, ici présent, en l'occurrence David Val, Pierre-Marie Saradin?
Alors d'abord, je vais réagir sur le spécialiste. Je ne suis pas du tout le spécialiste, je fais partie des
la
équipes,
communauté.
De la communauté. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de travailler avec José Sarrazin, qui va nous parler tout à l'heure.
Absolument, depuis
en fait,
les Açores.
On est dans un laboratoire d'écologie, donc l'écologie, c'est l'étude des animaux dans leur environnement, et moi je m'occupais de l'environnement, et José va s'occuper des organismes. Donc c'est vraiment déjà un travail d'équipe. Et ça fait depuis qu'on travaille ensemble, qu'on a une forte activité de communication scientifique.
Pour faire passer cette incroyable vie qui se développe là où on ne l'attendait pas.
Alors, il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs niveaux. Alors, un, c'est pour montrer justement ces milieux qui sont encore très, très peu connus et qui vont peut-être être exploités d'ici quelques années. Mais c'est également parce qu'on a la très grande chance de travailler, de faire un métier, le métier de chercheur, qui est assez fabuleux. Donc, c'est aussi un retour vers le grand public. On, 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 on est payé par, par l'État, donc c'est aussi un retour vers le, vers, vers le grand public. Mais c'est cette volonté de transmettre un petit peu tout ce qu'on découvre.
Et d'entraîner donc, non seulement David Valle ici présent, à qui je vais dire bonjour tout de suite, mais aussi des comédiens, des acteurs, enfin une troupe, celle du Théâtre Piba en entier, d'entraîner avec vous dans cet énorme vaisseau de l'Ifremer, des gens qui ne sont pas du tout du métier, et qui n'ont jamais plongé, et qui ne connaissent pas la vie dans les profondeurs, ni la vie à bord d'un navire.
Ce projet, il est issu, un peu comme tous les bons projets d'ailleurs, d'une tasse de café donc qu'on prenait avec un collègue qui nous a dit, on cherche également avec José une nouvelle manière de communiquer. Alors, en dehors de la communication scientifique, on a le chercheur qui sait et puis l'auditoire qui va poser des questions. On avait quelques activités avec des écoles, mais on cherchait autre chose, un petit peu. L'objectif, ce n'était pas obligatoirement de passer un message, mais plutôt d'avoir quelque chose de poétique, humoristique, un petit peu décalé, qui pourrait attirer un autre public. Et c'est là qu'on nous a présenté Thomas Cloarec, le metteur en scène.
Le metteur en scène et David Valle. Donc bonjour David Valle.
Bonjour.
Quand même. Merci d'être en direct avec nous. Donc pour partager la vie profonde, c'est le titre de votre récit, franchement inouï, ou plutôt de votre carnet de bord, à bord du Pourquoi pas, à l'été 2017. Vous avez donc passé 3 semaines au bon milieu de l'océan Atlantique, partageant le quotidien, le travail des scientifiques, des marins aussi. C'est une vraie expédition dans les abysses, une expédition. Le livre est génial, on va y revenir, mais qui vous a changé, David Valle ?
Oui, bien sûr, parce que, comme on l'a dit au début de l'émission, je suis un écrivain, je suis dramaturge, mais je ne suis pas scientifique. Et quand bien même j'ai l'habitude de travailler avec des scientifiques, jamais je ne me serais imaginé un jour sur ce splendide navire au beau milieu de l'Atlantique, entre Europe et Amérique, en train d'observer des environnements et des écosystèmes qui me faisaient rêver depuis très longtemps, mais encore une fois, que je n'aurais jamais cru possible d'observer en temps réel et avec mes propres yeux.
Et vous avez partagé le quotidien, le travail, les missions même des scientifiques. Vous êtes venu, et d'ailleurs c'est assez joli, vous dites que vous affichez au fur et à mesure votre journal de bord pour que les scientifiques comprennent ce que vous y faites, mais en même temps vous travaillez avec eux, vous les aidez dans leurs tâches.
C'était une des conditions de ce travail, puisqu'il s'agissait pas seulement d'être là en tant qu'observateur, mais en tant que personne allant à la rencontre du travail et de la vie à bord, et de partager les objectifs de la mission. Donc très vite, quand Thomas Cloarec, le metteur en scène du Théâtre Piba,
ce texte a été mis en scène, on va écouter
exactement.
Des extraits tout au long de cette émission.
Mais j'ai toujours été un lecteur de journaux de bord, d'expéditions, d'aventures, d'épopées. L'Odyssée d'Homère en est un aussi, journal de bord. Donc ça m'avait toujours, pour moi, ça avait à voir avec le côté épique de cette aventure. Je me suis dit, je vais tenir le journal de bord, ce qui me permettait à la fois d'écrire la vie à bord, de parler des découvertes scientifiques, de dire aussi mes propres impressions, mon propre cheminement, et puis tout ce qui se passe dans un bateau où peu de gens ont la chance d'aller. Et comme les places sont très limitées à bord, vous avez dit un gros navire, ce qui est vrai, mais au milieu de l'Atlantique, il est tout petit. Et oui, on était ça. 75 à bord. Et ce qui était très... donc le nombre de places est limité. Et donc, j'ai travaillé avec José. J'étais un peu comme son assistant, José Sarrazin. Et je l'aidais l'après-midi au prélèvement de la faune. Et le matin, j'écrivais et j'interviewais les scientifiques. C'était des journées remplies.
Je rappelle que le titre de votre livre, c'est « La vie profonde, une expédition dans les abysses » aux éditions Artaud. Et que nous avons un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditrices et auditeurs. On ne fait que parler de vous, cher José Sarrazin. Vous êtes en ligne avec nous depuis les Açores. Bonjour, José.
Et bonjour.
Merci d'avoir pris sur votre temps de travail, de recherche et de plongée pour être en direct avec nous. Vous êtes donc chercheuse en écologie benthique au laboratoire environnement profond de l'Ifremer et vous êtes donc l'autre bonne fée des abysses, pour le dire comme ça, qui avait entraîné David Valle dans cette expédition. Alors pourquoi vous, puisque vous êtes quand même à l'origine, avez eu envie de faire partager vos recherches, vos découvertes, on a bien compris, sur ces formes de vie si mystérieuses, si méconnues dans les abysses?
C'est un petit peu comme l'a dit Pierre-Marie, on a la chance de pouvoir étudier des écosystèmes qui sont complètement inaccessibles au grand public. Et pour nous, c'est vraiment important de pouvoir partager Je suis désolée, je suis perturbée parce que je m'entends en écho.
On va essayer d'arranger ça. On va essayer d'arranger ça avant de vous reprendre. Ce que je peux vous proposer, si vous voulez, José, le temps qu'on règle cette liaison téléphonique, c'est que autour de la question que nous enseigne la vie dans les abysses, qu'on se mette finalement tout de suite dans le bain, si j'ose dire, et dans, comment dire, non pas le résultat, mais première plongée finalement au cœur de ce fumoir, de cette source hydrothermale bien nommée Lucky Strike, à 1700 mètres de profondeur, au large des Açores, où vous êtes d'ailleurs en ce moment, José Sarrazin, et que vous avez donc exploré tous les trois lors de cette mission Momarsat à bord du Pourquoi Pas. Voilà ce que vous avez vu, David Valle, extrait de La Vie Profonde, votre journal de bord, mise en scène en son et en lumière par la troupe de Brest Théâtre Pibat, dans un spectacle immersif à tous les sens du terme qui s'intitule Donnevor, mer profonde en breton, où tous les acteurs se sont eux aussi immergés, au sens propre comme au sens figuré. Extrait de la captation de Donnevor, c'est parti.
Lucky Strike est un champ hydrothermal d'un kilomètre carré, relief très découpé, avec des collines, des sommets actifs, de vastes étendues, des falaises à pic. Premier trouble, sur les pentes de ces reliefs, les parois s'animent et se meuvent. Ce sont d'immenses colonies, grouillantes d'animaux trop enchevêtrés pour pouvoir d'emblée les distinguer. Innombrables, aussi compactes que leur surface de vie est étroite. On reconnaît des poissons. Ils se feraient un passage au milieu de ce qui semble bien des milliers et des milliers de moules géantes, hérissant le tranchant de leurs coquilles. Vague évocation pour nous qui cherchons des analogies rassurantes d'un dispositif militaire médiéval.
Mais la comparaison avec la Terre que nous connaissons s'arrête là. Tout nous trompe. Tout est changé. Les prairies sont faites de nappes de bactéries que viennent brouter crevettes et autres bactérivores. Bien que plongés dans l'élément liquide, nous n'en apercevons pas moins de la fumée. Anomalie formidable, des nuages noirs. Ils naissent des fluides toxiques et brûlants que crachent des cheminées massives aux formes tourmentées. L'eau que nous connaissons est translucide, bleue, verte. Elle joue avec la lumière. Là, elle est si dense qu'elle empêche celle-ci de parvenir en ces lieux, créant une obscurité dont la nuit même serait incapable. Ces paysages évoquent un monde plongé dans une nuit nucléaire. Une terre que le soleil aurait désertée. Une planète inexplicablement chassée hors de son système solaire. Qu'aucune étoile n'éclairerait plus.
Est-ce que c'est vraiment comme cela, quand on touche le fond, là c'est les mots du poète et de l'écrivain David Valle, Pierre-Marie Sarrazin, c'est comme ça, dans le fond?
Non. Quand David nous lisait les premières pages de son journal de bord à bord de du Pourquoi Pas, moi je trouvais qu'il arrivait à mettre des mots sur ce que nous on n'aurait jamais pu écrire de telle manière. Mmh. Nous on nous aurait regardé en disant ouais, c'est trop grandiloquent, mais lui avec ce regard extérieur il pouvait, et toujours avec ses étoiles dans les yeux, il a l'œil qui pétille, David. Et ce style qui est très très riche en fait, et qui nous oblige à lire, relire plusieurs fois avant d'avoir accès à tout ça. Mais oui, moi chaque fois que je le lis, chaque fois que j'entends Don't Voir ou plus, je continue à être, je suis dedans.
José Sarrazin, j'espère que vous aurez un peu moins d'écho là depuis les Açores. Est-ce que vous reconnaissez ce que vous voyez, ce que vous avez vu vous aussi à bord du Pourquoi Pas?
Ah ben oui, c'est vrai que sa description des sources hydrothermales, déjà, ça nous amène dans un univers complètement mystérieux. Mmh. Mais c'est comme ça, hein, c'est complètement, c'est démentiel. On arrive au fond de l'eau et puis on a ces volutes de fumée noire dans l'eau. Déjà, c'est complètement hallucinant, quoi. C'est inattendu. Et c'est vrai que, comme dit Pierre-Marie, les mots de David, ils sont hyper poétiques. Nous, on nous demande souvent d'être factuels en tant que scientifiques, d'enlever les adjectifs et tout ça. Et lui, il peut se permettre ça. Donc, ça a permis voilà, de mettre des mots ou même des images dans la tête de tout le monde.
Justement, on s'y croirait complètement quand on le lit. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, peut-être, José Sarrazin, dans cette vie, dans ces formes de vie insensées, dans ces fumeurs, dans ces nuages noirs au fond de l'Atlantique?
Bah, c'est des communautés, c'est un peu aussi ce que disait Sarah Samadi en entrée. C'est tout d'un coup au sein de la plaine abyssale qui est quasi désertique, en tout cas à l'œil nu, c'est quasi désertique. On se retrouve avec des oasis de vie, alors une faune complètement grouillante sur des édifices hydrothermaux qui font plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et tout d'un coup, on a voilà, cette faune très abondante, donc c'est assez surprenant. Et c'est lié ça au fait que sur ces écosystèmes, il y a une source d'énergie alternative hein, qui est l'énergie chimique. Donc au lieu de bénéficier de l'énergie du soleil à part la photosynthèse, ces organismes ils bénéficient de l'énergie chimique qui sort de ces fumeurs très chauds pour croître et survivre.
Donc c'est vraiment au fond d'autres formes de vie que les nôtres sur Terre, David Valle. On se dit aussi que dans cette expédition dans les abysses, au fond ce sont des lieux presque encore plus méconnus que les planètes de notre système solaire.
Alors, enfin... c'est vrai, et ce qui est étonnant c'est qu'on a découvert ces oasis en 1977.
Pas longtemps. Hein.
Donc bien après qu'on a posé le premier pied sur la Lune. Ce qui dit quelque chose de l'inaccessibilité de ces profondeurs qui sont pas si lointaine que ça, mais l'inaccessibilité, les pressions les rendent infiniment, infiniment distantes de nous. Et c'est vrai que la vie qu'on y découvre, qui était une vie qu'on n'y soupçonnait pas, et qui réagit selon des principes biologiques qui étaient inconnus. Nos deux scientifiques en parleront, la chimiosynthèse, la symbiose aussi, parce que dans ces environnements très difficiles, eh bien, les animaux ont choisi la solidarité, ce qui est un bon exemple aussi, un bon miroir pour nous. Ces animaux, bah, par exemple, les vers géants ont délégué
des
à
vers des, géants, ah, voilà, il y a des vers géants
dans le Pacifique, des vers de 2 mètres de long qui ont délégué à des symbiotes la capacité de pouvoir se nourrir,
à d'autres
digérer
bactéries.
Et déféquer à leur place. Donc, si vous voulez, c'est vrai que les bouches se ferment, les appareils digestifs se disparaissent. C'est quand même très étonnant. Et puis, c'est merveilleux de penser que la vie est si puissante qu'elle va même jusque-là. Et qu'elle sert ensuite, une fois qu'on l'a découvert, à des modélisations pour la vie extraterrestre. Et c'est pour ça que la vie profonde, elle est souvent, ce texte, il est souvent traversé par des effets d'échelle. On est à la fois dans les profondeurs, tout de suite on arrive en un rien de temps à l'espace, et puis à ses propres profondeurs, on y reviendra.
C'est ça, à ses propres profondeurs aussi. Pierre-Marie Sarrazin, outre ces formes de vie insensées, il y a aussi un paysage, un écosystème, un fonctionnement qu'on n'imaginait pas avant 1977.
Effectivement, jusqu'en 1977, on avait l'impression que, comme l'a dit José, les plaines abyssales étaient presque désertiques. On va avoir très très peu d'énergie disponible. L'énergie disponible, c'est simplement celle qui va être formée dans les couches, dans les premières couches de surface de l'océan, entre 0 et 200 mètres de profondeur, où la photosynthèse peut encore agir. Et donc, c'est ces organismes qui vont mourir et puis petit à petit sédimenter, arriver sur le fond. Mais sur le fond, il va rester 10%, 5% de matière organique disponible. Donc, c'est ça. C'est pour ça que la première appellation qu'on a donnée à ces écosystèmes quand ils ont été découverts, c'était des oasis des fonds des mers.
Des oasis des fonds des mers. Et pourquoi Lucky Strike, ce fumeur que vous avez exploré?
Alors, comme le répète David dans la vie profonde, ce n'est pas simplement parce que ce sont des fumeurs, et ce n'est même pas du tout parce que ce sont des fumeurs, mais c'est simplement un coup de drague chanceux. Donc, Lucky Strike, un coup chanceux en anglais, donc, qui a remonté des organismes chimiosynthétiques.
Donc, rien à voir avec les fumeurs.
Heureusement.
Heureusement, c'est un coup chanceux. Et désormais possible donc d'explorer ces oasis sous-marins. On va évidemment revenir sur ces formes de vie, sur les moyens que vous avez d'ailleurs pour l'observer avec un sous-marin, avec vous, chercheurs des abysses, sur les menaces, hein, on en a parlé, qui pèsent aussi sur ces écosystèmes fragiles. Mais on va d'abord s'arrêter en musique sur un morceau qui, je crois, cher José Sarrazin, qui êtes aux Açores, vous rappelle votre première plongée. Alors, ce n'était pas au large des Açores où vous êtes actuellement, c'était au large du Canada, dont vous êtes originaire. Comment la biologiste forestière que vous êtes s'est-elle orientée vers les plus grandes profondeurs océaniques jusqu'à toucher le fond? Et ben, on écoute The Wall de Pink Floyd sur RFI et vous nous direz pourquoi ensuite et comment.
We don't know.
Des Pink Floyd, José Sarrazin, c'est pour vous, quel souvenir ! Quel souvenir cela vous rappelle-t-il ?
J'ai été replongée dans le Alven direct.
C'est-à-dire ?
Ça me rappelle ma première plongée dans les grands fonds marins en 1995. J'étais alors une petite étudiante en thèse au Canada, donc. Et en fait, moi, j'ai travaillé beaucoup sur des images vidéo pendant ma thèse avant d'avoir une première plongée. Et donc, je travaillais sur des images en 2D d'un édifice hydrothermal qui s'appelait Smoke and Mirrors. Et en fait, j'ai travaillé pendant 2 ans avant de vraiment plonger dans ces environnements-là. Et ça a été une révélation pour moi. Parce que je travaillais sur des images, j'essayais de cartographier, si vous voulez, la distribution de la faune sur cet édifice qui faisait une douzaine de mètres de haut. Et je travaillais sur un écran et voilà, je cartographiais ma petite faune. Et puis c'est vrai que quand j'ai descendu pour la première fois dans l'Alven et que là, on a, avec le sous-marin, on a fait une ascension en fait de cet édifice de 12 mètres de haut. Et là, on dirait que j'ai
12 mètres de haut sous dans les profondeurs.
Il y a plein de choses qui. Ouais, voilà, c'est des grandes structures hein, de sulfure qui s'accumulent au cours du temps et sur lesquelles les organismes vont vivre. Et sur ces structures, il y a des fumeurs un peu partout, il y a des moirages et tout ça. Et c'est vrai que de faire l'ascension avec le sous-marin, on comprend mieux le relief parce que là, c'est du 3D, on voit avec nos yeux, on voit ces fumeurs, là, on dit, ben voilà. Ouais,
Que vous a enseigné José Sarrazin ? Est-ce qu'on vous a perdu ? Oui, je crois qu'on vous a perdu. Dans ces profondeurs infernales dont parle José Sarrazin, Pierre-Marie Sarrazin, quelle forme de vie les plus étonnantes, finalement ? Je sais que c'est le domaine de José Sarrazin, mais quelle forme de vie les plus étonnantes on trouve à ces profondeurs-là, dans ces espèces d'édifices de 12 mètres dans les abysses ?
On va trouver par exemple, alors David a parlé de la symbiose tout à l'heure, mais on va trouver aussi des micro-organismes extrémophiles. Donc des micro-organismes, des bactéries et des archées qui vont se développer, pas seulement survivre, mais vivre, se développer à des températures de 80 degrés. Actuellement, le micro-organisme le plus extrémophile qui existe va se développer à 122 degrés.
À 122 degrés, la vie peut exister.
Exactement. Et on s'aperçoit également maintenant que l'hydrothermalisme n'est plus, on va dire, une exception. C'est un sujet d'étude toujours à la pointe. Mais on s'est également aperçu qu'on pouvait trouver des micro-organismes vivants à 1600 mètres dans des carottes de sédiments. Donc vous imaginez 1000 mètres ou 1600 mètres d'eau. Et ensuite, vous faites une carotte. Et à 1600 mètres dans cette carotte, vous avez encore des traces de vie.
José Sarrazin vous a récupéré depuis les Açores. Justement, dans ces formes de vie que vous étudiez, qu'est-ce qui vous frappe le plus ? C'est cette vie biochimiques, ce sont ces micro-organismes, la symbiose dont nous parlait David Valle. Est-ce que c'est le fait qu'ils sont, qui vivent, mais qui survivent et qui se perpétuent? Qu'est-ce que vous étudiez? Qu'est-ce qui vous étonne le plus, José Sarrazin?
Moi, j'essaie vraiment de comprendre déjà quels organismes on trouve, hein, quelles espèces on va trouver, dans quel type d'habitat on va les retrouver et comment ils vont évoluer au cours du temps. Et ce qui me surprend le plus, la symbiose, c'est vraiment quelque chose de fantastique, hein. Ça permet à ces organismes de tirer parti de l'environnement et d'atteindre pour certains des tailles assez phénoménales.
Hein.
Des moules assez, des grands individus. On a les grands vers dont David Valle parlait, là, qui peuvent faire 2 mètres de haut, qui sont magnifiques. Ça fait des espèces de champs qui ondulent dans le fond de l'eau avec leurs branchies magnifiques rouges. On a aussi des moules qui atteignent des moules et des palourdes qui atteignent des tailles assez, assez grandes par rapport à ceux qu'on retrouve sur la Terre. Donc, c'est cette symbiose qui leur amène une énergie phénoménale, en fait, par l'énergie chimique aussi.
C'est-à-dire que ces formes de vie, elles sont plus grandes dans les grandes profondeurs. Ces vers de 2 mètres de haut, on n'aimerait pas les croiser sur Terre, mais c'est...
ils bougent pas, ils sont sessiles.
D'accord.
Ils ne se déplacent pas, ils sont fixes, c'est comme ils sont fixés, ouais. En fait, il y a certains individus qui sont très gros et après on a aussi beaucoup de faune de très petite taille. Hein. Donc, ces animaux comme dans une moulière qu'on va retrouver dans la zone intertidale, avec les moules par exemple, on va retrouver une panoplie d'espèces et c'est ce qu'on essaie de comprendre. Où est-ce que vont se distribuer ces différentes espèces en fonction des gradients extrêmement importants de température et de chimie qu'on va retrouver sur les sources hydrothermales et comment les variations de ces sources hydrothermales, puisque c'est des environnements qui sont dynamiques, comment ça va influencer la faune et encore, si on va encore un peu plus loin, c'est comment ces organismes pourraient récupérer si jamais il y avait éventuellement une exploitation, une destruction de leur habitat.
Et voilà, on va y venir justement, parce qu'au cours de ces missions d'exploration, d'études de cette faune insensée des sources hydrothermales et de la source hydrothermale Lucky Strike, c'était en 2017, donc à bord du Pourquoi pas, vous, l'écrivain dramaturge David Valle, vous n'avez pas hésité à mouiller le maillot, on l'a dit, vous avez mis la main à l'éprouvette ou à l'épuisette et participé à toutes les opérations des scientifiques à bord, notamment avec José Sarrazin. Donc, nouvelle plongée en apnée tout de suite dans le spectacle d'Onvor, mer profonde en breton, tiré de cette expérience commune et de votre journal de bord, La vie profonde.
Et comment tu fais là pour récupérer la position de la CTD? On a 900 mètres à défiler. Tu te décales dans quel sens?
Non, là, je reste en station. Après la CTD,
Nous allons tester tout au long de la mission la résistance de la faune des profondeurs.
Car la question que se posent les scientifiques, c'est bien celle de la survie de ces communautés animales. Si jamais les hommes, pour des raisons économiques ou bedons ou commerciales, venaient à exploiter ces écosystèmes-là et puis à les détériorer, la vie parviendrait-elle à résister? Combien de temps leur faudrait-il pour cicatriser? Et le paradoxe de ce nouveau monde, tout comme l'Atlantide, c'est qu'à peine découvert, il menace d'être englouti. Le temps de la rencontre est compté. C'est qu'une question d'années avant que d'immenses engins miniers, grands comme on n'imagine pas, prennent possession de territoires autrefois dévolus au silence, à l'obscurité puis à la vie cloîtrée.
On a entendu Karine Dubé et Charlotte Hellmann, actrices de cette troupe Piba brestoise qui met en scène ce voyage dans les abysses, à peine découverte finalement, autour de la question que nous enseigne la vie dans les abysses, à peine découverte, cette vie profonde, elle est déjà menacée. On sait qu'elle sera menacée. Ça fait partie de votre travail, Pierre-Marie Sarrazin.
Exactement. Et de celui de José qu'on a Exactement. Il y a, quand on a commencé à travailler sur ces écosystèmes, c'était vraiment la connaissance pour la connaissance, comment fonctionne l'océan. Et depuis une quinzaine d'années, on nous pose la question, on s'est aperçu que ces sources hydrothermales En accumulant des minéraux qui précipitent avec ce fluide hydrothermal qui est chargé en métaux et en sulfure, ce sont des métaux qui seraient intéressants potentiellement pour l'industrie actuellement et notamment pour tout ce qui est électrification des transports, pour tout ce qui est micro-informatique, etc. etc. On s'aperçoit que la demande, si on reste sur la même demande, les réserves terrestres ne suffiraient pas. Alors je mets des conditionnels partout puisque aussi bien les économistes, les géologues, etc. ne sont pas tous d'accord. Mais effectivement, on s'est aperçu que les nodules polymétalliques dans le Pacifique, par exemple, les sources hydrothermales qu'on appelle les sulfures massifs, quand ces sources ont mis des années à précipiter, à se former, ou les encroûtements cobaltifères sur les monts sous-marins peuvent être des ressources potentielles.
Sur les mons sous-marins, sur les volcans et les monts sous-marins.
Exactement.
C'est ça. Mais alors, heureusement, si j'ose dire, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis tellement de temps à les découvrir, c'est que c'est très, très, très difficile d'accès. Heureusement pour le moment, mais ça traverse quand même, David Valle, aussi tout votre récit, hein, tout ce journal de bord, La vie profonde, une expédition dans les abysses, ce sentiment que, à peine découvert, ces formes de vie insensées qui nous apprennent tant, qui forcent le respect, qui montrent la préciosité de la vie sur Terre et dans les plus grandes profondeurs, est déjà menacée. On sait qu'on risque d'aller y chercher ce dont on a besoin pour avancer, nous nourrir, nous chauffer, etc.
C'est la très grande tristesse qui étreint ce voyage, c'est qu'effectivement, on testait la résilience de ces écosystèmes et de ces faunes. On se dit quand même que la vie est allée jusque-là. En plus, on apprend que peut-être que ce sont dans des écosystèmes similaires à ceux-ci que les premières briques élémentaires de la vie des acides aminés auraient été produites. Donc,
c'est ça, environnements-là... Petite parenthèse, c'est peut-être aussi les clés pour comprendre l'émergence de la vie.
C'est à la fois... C'est aussi un peu la source de la vie. Alors, on se dit, allez toucher là. Moi, c'était quelque chose qui me... Oui, c'est quelque chose qui transperce tout le récit de ce livre. Et puis, plus généralement, les questions environnementales sont des questions qui, moi, en tant qu'écrivain, que je rencontre souvent, que je travaille souvent. Et c'est vrai que souvent, on invoque la transition environnementale. Mais je trouve que le terme, là, est un peu... c'est un peu dangereux de parler de transition environnementale dans le cadre de l'exploitation des sources hydrothermales, parce que ça revient à dire que pour créer un monde, bâtir un monde plus durable et plus souhaitable, alors il faudrait exploiter les derniers territoires inviolés de notre planète. Et ça, je trouve que, voilà... Moi, ça, c'est difficile à comprendre, ça a du mal à passer, d'autant que on sait très bien qu'une vraie transition environnementale va aller, bien sûr, avec des nouvelles recherches énergétiques et de transition, mais ça ira beaucoup avec de nouveaux usages et une nouvelle culture, et donc une nouvelle façon d'envisager le rapport au monde. C'est là où les arts et les sciences sont à travailler
et
ensemble.
Et voilà, on y vient, parce que c'est vrai qu'aussi autour de ces incroyables sources hydrothermales dans les grandes profondeurs de cette vie dans les abysses que vous étudiez, il y a aussi là... toute une aventure, une expédition dans les abysses, pour reprendre le sous-titre de votre livre « La vie profonde », qui est incroyable parce que ça allie la recherche la plus pointue sur des formes de vie étranges, avec des moyens techniques sous-marins, bateaux de l'Ifremer, etc., des marins... voilà, ça sollicite énormément de choses techniques, et en même temps, c'est une alliance... entre, j'ai pas envie de dire art et science, mais plutôt entre artistes, écrivains, acteurs de théâtre et scientifiques. Pierre-Marie Saradin, vous avez embarqué tout ce monde-là à bord pour qu'on ressente ce qui se passe et pour que nous, ensuite, lecteurs ou spectateurs, on le ressent dans notre chair, on soit nous aussi submergés, immergés émotionnellement en tout cas.
Alliance, c'est une rencontre. En fait, on voulait surtout pas qu'on passe une commande, par exemple, à Théâtre Piba en leur disant voilà, on aimerait bien que vous parliez des écosystèmes marins profonds. Dès qu'on a rencontré Thomas Cloarec, on a dit il faut qu'on construise quelque chose,
qui est
le metteur en scène. Il faut qu'on construise quelque chose ensemble. Alors, je voudrais pas utiliser le mot co-construire, qui est utilisé tous les jours, mais on s'est vraiment rencontrés. On a d'abord embarqué sur un transit valorisé où on a fait quelques petits jeux d'acteurs, on a parlé de nos lectures, on a parlé de ce qu'on faisait, donc on s'est rencontrés un petit peu. Et ensuite, effectivement, c'est ce qu'a dit David, on a immergé complètement David et Thomas Cloarec dans le fonctionnement d'une mission. À la fin, ils n'étaient pas transparents, mais ils étaient partie prenante de l'équipage. Et ensuite, avec José, on a suivi petit à petit le montage, alors pas d'écriture, parce que là, c'est vraiment le travail d'un professionnel, mais le montage en scène, la mise en scène, avec les a priori que Thomas Cloarec avait sur... on a fait une pièce, Thomas a fait une pièce sans aucune image. Donc une pièce radiophonique sur des images que nous, on aurait bien aimé montrer.
Et
donc on a suivi tout au long.
Et justement, vous parlez de cette pièce radiophonique. Alors nous aussi, évidemment, ça nous embarque et ça nous plaît à la radio autour de la question que nous enseigne la vie dans les abysses. Si vous posez la question à chacun, hein, que vous a enseigné cette vie dans les abysses, la vie profonde, pour reprendre le titre de votre ouvrage, génial, hein, David Valle, je l'ai dit, et dont nous avons, chers amis auditrices et auditeurs, un exemplaire à vous offrir. Et ben, vous nous embarquez littéralement avec vous, hein, par tous nos sens, et notamment dans ce spectacle d'Onvor. On voit, on ressent, on écoute autrement les grandes profondeurs à bord du Pourquoi pas, extrait de votre journal de bord, mis en scène par la compagnie de théâtre Piba, dans lequel on entend toutes sortes de sons.
11 septembre. Ce matin, je rencontre Xavier Mouy, un acousticien venu aux ateliers. Et il m'apprend que les poissons communiquent par son. Alors, je l'ignorais complètement et je suis pas loin de penser que vous aussi. Bon, alors, le chant des baleines, on connaît. On a même récemment reconnu un langage aux dauphins. Bah, que les sardines papotent, ça, bon. Et pourtant, les poissons émettent des sons pour se repérer, se diriger, voire même se choisir un conjoint. Chaque espèce émet un son propre. À sa manière, par exemple, le hareng n'utilise pas les muscles de sa vessie comme la plupart des autres poissons. Il y fait entrer de l'air qu'il expulse ensuite. En gros, il pète. Et s'il pète, c'est pour séduire sa nouvelle épouse.
Xavier s'est lancé dans une œuvre monumentale. En récoltant les sons propres à chaque poisson, il est en train de réaliser le tout premier glossaire de la faune sous-marine. Bercé par Cousteau puis son monde du silence, on était complètement passé à côté. L'océan bruisse de mille sons.
Voilà une sacrée découverte, les sons de la mer, le paix du hareng, moi, carrément, ça m'enchante, je dois dire, le paix séducteur du hareng. Et puis, on entend aussi dans cette pièce de théâtre que c'était dit en breton, donc on voit qu'il y a plein de monde, plein d'univers, il y a de la science, il y a de la poésie, voire même de la philosophie, David Valle, outre le paix du hareng, qui n'est pas si philosophique que ça, mais comme méthode de séduction, sait-on jamais, c'est de la musicologie. Voilà.
Oui, c'est de toute façon, la vie profonde n'est pas simplement un livre qui délivre un contenu, un savoir. C'est avant tout le récit d'une épopée, d'une aventure moderne. C'est quand même un des derniers endroits inexplorés de la planète. Et donc des sentiments et des affects que cela provoque d'être embarqué à la découverte d'un monde dont moi, en tant que profane, j'ignore tout. Et j'essaye d'emmener le lecteur et au théâtre, d'emmener les auditeurs. On a essayé avec Thomas d'emmener les auditeurs avec... Et les lecteurs, dans la découverte, l'émotion que crée soudainement la révélation d'un monde qui certes nous paraît très lointain parce qu'il est inconnu, mais nous ramène à nous, à nos profondeurs.
Et c'est ça, hein,
c'est ça, c'est l'histoire de l'éveil d'une conscience. Mm-hmm. C'est vrai que ce voyage, cette expédition, cette aventure, cette épopée, on peut l'appeler, cette odyssée, on peut même l'appeler cela, m'a appris à me relier de manière plus intime, plus profonde, à ce qu'on nomme très mal l'environnement, parce que ça donne l'impression que ça nous entoure, que ça nous environne. Or, c'est ce qui nous fonde, c'est ce qui nous fait. C'est une partie.
Même un environnement aussi hostile que celui-là.
Oui, on l'a dit, on contemple peut-être l'origine de la vie. Ce sont certainement des endroits comparables qui furent nos ancêtres. La Genèse, que je dis, se trouve sous nos pieds, quoi. C'est ce que je raconte dans le livre. Le début de tout est là, peut-être.
Science, poésie, voire philosophie, autour de la question que nous enseigne la vie si mystérieuse dans les grandes profondeurs. On continue de s'interroger ensemble en rejoignant cette fois-ci le Banquet des Abysses, signé Clarica sur RFI. Fille, extrait de l'album Le Prest en symphonique.
Ce que l'avion croit une flaque sans y voir des milliers de barques. Ce qui nous apparaît des cieux si minuscules et silencieux. C'est le toit d'un monde inconnu, il abrite des avenues. Des forêts de maisons d'écailles, des champs de nacre et de batailles. La goutte vue du firmament, c'est le plus grand des continents. Plus grand que des terres conquises, que 10 000 pays et banquises. Sous un camouflage d'écume, l'homme y a caché sa fortune. Et ce trésor, c'est ta mémoire, le croire, c'est pas la mer à boire. Écoute au banquet des abysses, écoute sous la peau de l'eau se défendre la voix d'Ulysse et celle de Marco Polo. Regarde à demi endormis des sirènes en dessous marins, des capitaines ennemis trinqués d'un champagne d'embrun. Écoute les éclats liquides des galops de statues équestres, les bibliothèques humides, le ruissellement d'un orchestre. Regarde ces âmes disparues danser sous tes jets de lumière, dévalant le torrent des rues au fond du grand cabaret de la mer.
Clarica sur RFI, le banquet des abysses, auquel nous convient nos invités, l'écrivain David Valle dans La vie profonde aux éditions Artaud, le carnet de bord de son expédition dans les abysses, à bord du navire scientifique de l'Ifremer, le Pourquoi pas, où l'on conviait Pierre-Marie Saradin, responsable de l'unité de recherche études des écosystèmes profonds à l'Ifremer, et la chercheuse en écologie benthique José Sarrazin, en ligne avec nous depuis les Açores, autour de la question que nous enseigne la vie dans les abysses. José Sarrazin, que vous enseigne la vie dans les abysses, puisque vous, vous l'étudiez de très près, hein, vous travaillez sur cette vie, ces formes de vie si étranges, si singulières dans les abysses.
Ben oui, oui, ce qui est étonnant, c'est un peu ce qui a été dit un peu auparavant, c'est qu'on se rend compte que la vie, en fait, elle est partout et elle a une puissance phénoménale, puisqu'elle arrive à confronter les environnements les plus extrêmes, d'un fluide à 350 degrés jusqu'à ce qu'il disait Pierre-Marie tout à l'heure, sous la croûte océanique à plusieurs milliers de mètres, on retrouve encore de la vie. Et je pense que ça a tout son sens quand on se dit est-ce que la vie sur d'autres planètes est possible. Quand on voit ce genre de manifestation sur Terre, on peut se dire tout est possible, effectivement.
Et est-ce que dans le tout est possible, est-ce que vous avez découvert, ou dans les formes de vie que vous étudiez, des formes de vie inconnues, inattendues, auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout, qui n'existaient pas, qui n'existeraient pas ailleurs sur Terre ?
Mais en fait, beaucoup de la faune qu'on retrouve au niveau des sources hydrothermales est dite endémique, c'est-à-dire qu'on la retrouve uniquement dans ce type d'écosystème. Mmh. Et puis, effectivement, à presque à chaque mission, on découvre encore, hein, même sur des sites qu'on connaît depuis très longtemps, des espèces qu'on n'avait jamais vues auparavant. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces qu'on appelle des espèces rares, qui sont là en un exemplaire, deux exemplaires. Donc, avant de les retrouver sur un environnement qui fait 66% de la surface de notre planète, il faut y aller.
Cet environnement-là, Pierre-Marie Saradin, on l'a dit, donc c'est des montagnes sous la mer, dans les profondeurs, des volcans. Il reste encore énormément à explorer. Que vous a enseigné cette vie des profondeurs, ces écosystèmes profonds que vous étudiez depuis de nombreuses années.
Peut-être que le mot qui reviendrait, c'est la diversité, la nécessité de la biodiversité. C'est-à-dire ne pas se limiter à une espèce qui va tout faire, mais qui va phagocyter tout le monde. Mais qu'a dit José, l'importance d'une espèce qui va être très rare. Cette espèce, elle a un rôle à jouer, même parmi beaucoup d'autres espèces. Et après, on s'aperçoit que, peut-être philosophiquement, ce terme de diversité, il est très, très important, parce qu'on s'aperçoit que si on applique ce schéma à tout le monde, au fonctionnement général de la Terre, la diversité pilote tout le monde et pilote aussi les relations qu'on va pouvoir avoir avec les autres.
C'est joli, ça doit inspirer l'écrivain quand même un peu philosophe que vous êtes, David Valle.
Les scientifiques comme Pierre-Marie et José m'inspirent. Je dois dire qu'ils nourrissent véritablement, ils ont nourri pendant toute cette expédition, bien évidemment, et la pensée et l'écriture.
Que vous a enseigné le plus cette expédition, cette vie dans les profondeurs? Est-ce qu'il y a aussi l'aventure humaine, la vie sur le bateau, vous le racontez, où il faut vraiment être efficace, utile et en symbiose aussi pour que ça fonctionne bien le travail des scientifiques, cette diversité du vivant incroyable, où avez-vous appris le plus?
C'est très difficile de répondre à cette question parce que tout est hors norme. Rien ne va de soi. Je veux dire, le travail qu'on y mène, les gens qu'on y rencontre, les écosystèmes qu'on y découvre, rien n'est... Enfin, tout est une découverte à chaque instant. J'étais... Alors, bien sûr, en plus, j'étais de quart, la nuit, on dort peu, on travaille beaucoup, on découvre sans cesse, l'esprit est stimulé, le corps aussi. Bon, voilà, on est dans un espace aussi qui est très saturé par le bruit. Les moteurs marchent sans cesse parce que, bien sûr, il n'y a pas d'encre.
Dans le bateau, bien sûr.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'encre assez profonde pour nous amarrer aux profondeurs. Donc, le bateau bouge sans cesse. Toute la faune qu'on remonte, tous les instruments de mesure sentent le soufre. Donc il y a une saturation de bruit, il y a une saturation de senteur, il y a une saturation. Donc on est dans une sorte, on est dans une extrémité qui nous absorbe, qui nous bouleverse. On est aussi dans une dilatation du temps. C'est une expérience. Moi j'ai l'impression, moi j'ai l'impression d'avoir vécu un peu ce que vivrait un cosmonaute. C'est-à-dire une aventure dont tout m'a étonné, tout m'a émerveillé, tout m'a passionné, tout m'a transpercé, tout m'a donné envie en plus de défendre passionnément ces environnements marins profonds. Et une partie de moi est restée là-bas. C'est vrai. Je ne suis jamais revenue tout à fait. Ouais.
Pierre Marie Saradin, vous en revenez, vous, parce que vous y repartez régulièrement à bord du Pourquoi Pas et pour étudier les environnements marins profonds.
On en revient, mais David a raison, on ne revient jamais complètement indemne. Vous imaginez, pendant 3 semaines, tout va être mis à votre disposition pour que vous puissiez réaliser votre passion. Donc pendant 3 semaines, vous allez manger.
Vous êtes immergé totalement.
Vous êtes complètement immergé. Vous travaillez comme vous voulez, comme vous pouvez. Dans le livre de David, il y a quelque chose qu'il a écrit, qu'il a ressenti, c'est cette dilatation du temps. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 jours, ça y est, on n'a plus de jours de lundi, mardi. Alors, on a simplement les dimanches, on a un petit peu de vin pour se rappeler, justement, c'est un marqueur de temps. Effectivement, on travaille le jour, on travaille la nuit. Et un deuxième point que je voudrais souligner, c'est le manque de verre. Il termine une des parties de son livre, justement. Quand je rentrerai chez moi, je m'achèterai un bouquet de fleurs. C'est une phrase que je trouve magnifique.
José Sarrazin, pour conclure. Vous aussi, je vous ai entendu dire oui.
C'est cette phrase qui termine l'une des parties de la pièce d'Onvor. Quand je reviendrai à terre, je m'achèterai un bouquet de fleurs et qui se termine par une musique classique magnifique. C'est vrai que c'est vachement touchant parce que il y a ce côté où t'as envie de rester en mer, puis en même temps, il y a ce retour à terre et le retour à la normale, on va dire. Non, c'est vrai que ça bouleverse d'être en mer. C'est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer, en tout cas.
Mais un grand merci à vous trois de nous avoir un peu bouleversés quand même si nous sommes sur Terre. Merci, José Sarrazin, d'avoir partagé cette vie dans les abysses depuis les Açores. Merci, Pierre-Marie Saradin, d'avoir partagé ici un peu de vos expéditions et de nous dire un peu tout ce qui reste à découvrir et à protéger, à ne pas tout de suite aller racler et prendre pour nous. Merci David Valle, je ne saurais trop conseiller la lecture de votre ouvrage, inclassable et génial, récit, roman, journal de bord, la vie profonde, c'est à tous les sens du terme, une expédition dans les abysses, aux éditions Artaud. Je vous rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, que nous avons un exemplaire de la vie profonde à vous faire gagner, à vous qui nous demandez, si vous nous demandez par mail ou sur notre page Facebook, à vous qui vivez sur des rivages lointains. Et puis, signalons aussi donc à la Maison de la Poésie, David Valle, le mercredi 7 juin prochain, une lecture de la vie profonde. C'est à Paris et c'est à conseiller. Et puis un grand merci à toute la compagnie de théâtre brestois Piba, qui continue de travailler, de partager, parce que ça continue, l'insondable sous toutes les formes sensibles et possibles. Merci à Thomas Cloarec, directeur artistique, metteur en scène, au régisseur et créateur sonore Gwenolé Potser, au réalisateur du film Emmanuel Roy et aux actrices Charlotte Elman et Karine Dubé. Voilà, j'ai dit merci à tout le monde. On se quitte sur une instru du groupe Divague qui s'appelle comment ? Abyss. Merci à vous.
Merci. Merci.
À demain, autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous écouter ce soir, cette nuit à 23h, temps universel, et nous podcaster.